Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 13h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, l'épisode de forte chaleur qui touche la France depuis plusieurs jours a commencé à régresser sur les régions du Nord-Ouest. 11 départements restent en vigilance orange. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé avoir saisi la justice française sur les mauvais traitements infligés par les membres français de la flottille pour Gaza lors de leur détention en Israël. État des prisons françaises, Dominique Simonneau, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport, elle dénonce une situation intenable. On en discute dans notre dossier du jour à suivre. En France, l'épisode de forte chaleur qui touche le pays depuis plusieurs jours a commencé à régresser sur les régions du nord-ouest du pays, avec 3 départements rétrogradés en vigilance jaune, même si une large partie du territoire continue de suffoquer aujourd'hui. 11 départements sont encore en vigilance orange. Direction le Moyen-Orient, au Liban, 14 personnes ont été tuées hier dans des frappes israéliennes dans le sud du pays, où Israël a étendu sa zone de combat contre le Hezbollah, et 3 personnes sont mortes de Beyrouth, malgré un cessez-le-feu théoriquement en vigueur depuis le 17 avril. Les frappes israéliennes dans le sud du pays mettent en danger sérieux d'importants sites archéologiques, dont les ruines millénaires de Tyr et la forteresse médiévale de Beaufort, a alerté le ministre libanais de la Culture Hassan Salamé. L'Iran et les États-Unis poursuivent de laborieuses négociations indirectes pour mettre fin à la guerre qui a éclaté en fin février. Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 8 avril reste très fragilisé depuis les récentes de part et d'autre. On reste au Moyen-Orient. Des milliers de musulmans ont commencé aujourd'hui à quitter la Mecque en Arabie Saoudite après avoir accompli le grand pèlerinage sous une chaleur accablante et dans un contexte de forte tension dans la région. Ils étaient plus de 1,7 million de fidèles venus de 165 pays à participer cette année au Hajj. Mais le changement climatique réduit progressivement les périodes de l'année durant lesquelles le pèlerinage peut se tenir dans des conditions météorologiques supportables, selon une étude du réseau scientifique international World Weather Attribution. Dans un tout autre volet, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a annoncé avoir saisi la justice française sur les mauvais traitements infligés aux membres français de la flottille pour Gaza lors de leur détention provisoire en Israël il y a quelques semaines. Et les avocats des membres français de la flottille ont dénoncé, je cite, « le simulacre de condamnation de ces actes par la France » et ont annoncé leur refus de rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour évoquer la question. Dans le reste de l'actualité, épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Un premier patient confirmé positif au virus a été déclaré guéri ce mercredi, une annonce de l'Organisation mondiale de la santé. En France, l'Assemblée nationale a approuvé hier en première lecture et à l'unanimité l'abrogation du Code noir et de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises, jamais formellement abrogé après 1848. On y revient dans notre dossier du jour. À suivre. Et enfin, le Ballon d'Or français Ousmane Dembélé et l'international marocain Achraf Hakimi sont bel et bien présents dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Arsenal en finale de Ligue des Champions ce samedi après leur retour de blessure en début de semaine. Coup d'envoi demain à 18h à Budapest en Hongrie et un dispositif de sécurité particulièrement conséquent sera déployé demain en France pour cette finale. 22 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 8 000 seulement à Paris et dans son agglomération, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. À suivre les dossiers du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier, une catastrophe dans les prisons françaises. Dominique Simonneau, la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, tire la sonnette d'alarme. Dans son dernier rapport, avant de quitter ses fonctions, elle dénonce une situation intenable. Surpopulation, violence, surveillants, épuisés. Vous nous en parlez, Marc-Aurèle Barrez.
Oui, ce document nous en apprend beaucoup, Nawel. D'abord, il n'est pas tendre avec les politiques, alors que tous les élus, toutes les autorités connaissent de près ou de loin la situation dans les prisons. Ce qu'il a d'abord manqué, c'est le courage politique, c'est ce qu'on peut lire. Pour sa rédactrice Dominique Simoneau, l'année 2025, celle sur laquelle porte le rapport, aura été, je cite, l'une des moins respectables qu'auront vécu les prisonniers. Alors pourquoi ? Avant toute chose, le principal problème, c'est la surpopulation. Le document l'a dit endémique, c'est-à-dire chronique. En 2026, la France comptait plus de 88 000 détenus pour un peu plus de 63 000 places, soit un taux d'occupation de 140%, conséquence des détenus qui dorment sur un matelas au sol dans une cellule déjà occupée par d'autres personnes.
Et cette surpopulation, elle aggrave d'autres difficultés, Marc Aurèle.
Oui, c'est la CGLPL, l'autorité chargée de défendre les droits fondamentaux dans les prisons, qui le dit. Imaginez vivre constamment en surnombre, vous êtes fatigué, tendu, et ça en prison, ça crée de la violence. Les détenus subissent, mais les surveillants aussi, ils sont saturés, en sous-effectifs structurels, et dans ce contexte, les trafics et la brutalité augmentent. Autre problème, d'après le rapport, les bâtiments sont vétustes, faute de financement, les régimes présentés comme plus favorables à la réinsertion, comme les quartiers de semi-liberté par exemple, pâtissent de la surpopulation. Ils servent à désencombrer les maisons d'arrêt plutôt que de remplir leur rôle.
Et ce ne sont pas que les prisons qui sont concernées par ces atteintes aux droits et à la dignité.
Oui, les établissements de santé mentale sont eux aussi touchés par de nombreux manquements. Le principal problème, c'est la pénurie de personnel. Dans ces conditions, les employés ont des pratiques d'isolement et de contention, comprenez immobilisation, qui ne respectent pas le cadre légal. Des mineurs en psychiatrie, principal maillon faible d'après le document, se retrouvent hospitalisés dans des unités pour adultes, cela au mépris de leurs droits fondamentaux. Enfin, constat similaire dans les centres de rétention pour étrangers. La vie quotidienne en ces lieux est, je cite, souvent inadaptée, ne respecte pas l'intimité et crée un sentiment d'humiliation.
Merci Marc-Aurèle Barrès pour toutes ces précisions. Second dossier, l'Assemblée nationale a approuvé hier en première lecture et à l'unanimité l'abrogation du Code noir et de l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises. Un texte jamais formellement abrogé après 1848. « Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves », a réagi le député Stevie Gustave lors du débat. Un discours émouvant qu'il a tenu à l'Assemblée nationale hier. On l'écoute.
Voilà ce qu'était le Code noir. Une mécanique pensée, organisée, assumée, qui chosifiait des êtres humains. Dans ce texte, l'esclave devenait juridiquement un bien meuble. Et c'est pour cela, au fond, le plus glaçant. Le moment où la loi cessait de protéger l'humain. Je ne parle pas seulement d'un texte ancien. Je parle de mémoire. D'une mémoire qui traverse encore les générations. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies. Des êtres humains que l'on pouvait effacer, couper de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Ils voulaient vivre libre. Et cela aussi que l'esclavage a tenté de détruire. Et pourtant, malgré les chaînes, malgré les coups, malgré ceux qui voulaient les effacer du monde, ils ont continué à se tenir debout à travers des révoltes, les marronnages, les chants, les prières. Ils ont continué à défendre cette part d'eux-mêmes que l'esclavage voulait anéantir. La liberté a été confisquée, leur dignité jamais. Et cette force, ils l'ont transmise à leurs enfants, de génération à génération, jusqu'à nous. Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébelle. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a racontée. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduit en esclavage sous le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Parce que le Code noir ne s'est pas arrêté aux portes de l'histoire. Le racisme ne disparaît jamais totalement. Il change de visage dans certaines discriminations, dans certaines inégalités, dans certains regards. Voilà pourquoi l'éducation et la transmission sont essentielles à la transmission. Parce qu'un peuple qui n'enseigne pas son histoire laisse toujours une place à l'ignorance et aux préjugés. Et après l'esclavage, la colonisation a prolongé certaines logiques de domination et d'inégalité. Et certaines traces traversent encore les siècles. Car le passé ne disparaît jamais totalement. Il réapparaît parfois dans les inégalités que certains territoires continuent de subir. Aux Antilles, les maladies liées au chlordécone continuent de briser des vies. Des familles vivent avec l'angoisse de la maladie. Des mères s'inquiètent pour leurs enfants. Et dans certains territoires ultramarins, quand l'eau manque, quand certains renoncent à se soigner, quand la vie chère étouffe des familles entières, alors ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question de justice. Alors oui, abroger le Code noir est nécessaire, mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vie brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore, elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi, pour finir, de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage.
Vous venez d'écouter le député écologiste Stevie Gustave. C'est donc 178 ans après l'abolition de l'esclavage que les députés ont approuvé à l'unanimité l'abrogation du Code noir et des textes qui avaient organisé l'esclavage dans les colonies françaises. Un vote à forte portée symbolique qui intervient 25 ans après la loi Taubira reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais que reste-t-il aujourd'hui de l'héritage de cette loi ? La réponse de l'historien Pascal Blanchard.
Je pense qu'il y a trois niveaux importants. D'abord, les Français ont pris conscience de cette histoire, parce que la loi Taubira fait débat, que depuis elle a pu agir, que depuis la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a été créée, qu'elle est active sur les territoires, notamment dans les écoles, qu'elle fait des expositions, qu'elle propose des messages, qu'elle soutient des thèses. Quelque part, il y a une action publique autour du passé de la mémoire de l'esclavage, dont je vous fais remarquer qu'il n'y a pas d'équivalent sur l'histoire coloniale. Deuxièmement, elle a replacé dans le récit français cette histoire coloniale qui était souvent perçue à la marge, comme si c'était là-bas. Non, ça fait aussi partie de notre récit du commun. Et là, je dis que ça a changé dans la perception qu'on peut en avoir. Et puis troisièmement, la France a fait un acte symbolique cette fois-ci à l'échelle internationale, puisque ça a été la première puissance occidentale ex-esclavagiste qui a décidé dans un texte de loi, et la première au monde, à considérer l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Ces trois dimensions-là, en 25 ans, ont en profondeur modifié la prise de conscience en France sur ces enjeux. Et je dois dire que la France là-dessus a été moteur, et on peut même regretter qu'elle n'ait pas su, quelque part, prolonger cet élan. On l'a vu récemment avec un vote à l'ONU où la France s'est abstenue, ou, ce que beaucoup demandent aussi à la France, d'avoir un travail similaire sur la période de la colonisation, qui suit d'une certaine manière la période qu'on appelle esclavagiste, du colonialisme esclavagiste, qui a été sous l'ancien régime dominant.
Pascal Blanchard, historien, au micro de Nadia Bencher. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.